Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence LICI sur la présentation des résultats du troisième trimestre 2015. Je laisse à présent la parole à Emmanuel Viellard. Monsieur, c'est à vous.
Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Il y a quelques retardataires qui vont nous rejoindre en cours de route. Je voulais vous commenter donc les chiffres du troisième trimestre 2015 et comme à notre habitude, en support de mon discours, vous avez une petite présentation que vous devez suivre, je pense. Tout d'abord, les tendances 2015, vous voyez qu'on se compare par rapport à un chiffre d'affaires au T3 2014 qui était d'un très bon niveau, puisque c'est le niveau auquel on atterrit sur le T3 2015. Donc on n'a plus l'effet de l'intégration de Manoir sur ce trimestre, hein, puisque je vous rappelle qu'on a consolidé Manoir à compter du 4 juin 2014. Donc un chiffre d'affaires d'activité qui est stable de trimestre à trimestre, mais qui est de bonne tenue, on peut le dire. Maintenant, on est soutenu dans ce chiffre d'affaires par un effet dollar favorable. Donc, corrigé de l'effet dollar, la croissance organique, elle, est légèrement négative à moins 3,1%. Alors, quand on regarde par division et qu'on regarde tout d'abord ce qui s'est passé dans la division aéronautique, donc, vous avez une croissance organique qui globalement est toujours positive. On a cet effet dollar hein, qui nous aide bien dans le chiffre d'affaires affiché. On a des perspectives de marché toujours solides. Je voudrais en profiter pour toucher deux mots sur le contrat Airbus. Alors, nous ne sommes pas un adepte de grosses communications sur les contrats signés. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un contrat qui est très important, qui est le plus important des contrats que nous avons aujourd'hui signés, qui concerne le domaine des fixations pour la période donc de 2016-2020. Nous avons accepté avec le client d'appliquer les termes de ce contrat à compter du 1er juillet. Donc ça veut dire qu'on a basculé une facturation dollar sur un certain nombre de positions qui ont été reconduites sous contrat et on prépare la livraison, ce qu'on appelle le phase-in, donc la montée en puissance des nouveaux produits qui va commencer progressivement. Vous l'avez connu pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps sur le contrat Boeing sur le premier trimestre 2016 et il va continuer à nourrir l'activité sur la première partie au moins de 2016. Alors ce contrat il régule le fonctionnement des relations de l'ensemble des sites de fixation de l'ICI Aerospace. Il concerne tous les programmes Airbus, il concerne également les nouveaux programmes A350-900-1000 et à venir le 320neo. Il concerne toutes les gammes de fixation, principalement les fixations titane, également les fixations en base super alliage, en base nickel. Nous avons une position importante sur ce contrat. On y reviendra dans la partie perspective. Maintenant, le segment automobile. Là, on note une vraie baisse d'activité qui est liée globalement à la situation du ralentissement chinois qu'on a commencé à percevoir à partir du mois de juin et qui était surtout très sensible sur l'été. Donc, il y a eu un gros coup de frein. Ce coup de frein, il est là pour ajuster le niveau de stock dans la filière. Notamment, on le ressent dans nos livraisons directes en Chine, bien entendu, mais aussi auprès des équipementiers qui eux-mêmes fournissent l'industrie chinoise. C'est principalement sur l'activité des composants mécaniques que vous voyez dans le tableau de détails, hein, où là on est en baisse d'activité. Donc sur le T3, la baisse d'activité est somme toute relative, hein, la moins de 5, on a un niveau d'activité qui est supérieur à 100 millions sur le trimestre, donc on n'est pas très très loin de l'an dernier, mais on a un coup de frein assez brutal qui ne devrait pas durer, on le verra également, on y reviendra dans la partie perspective. Ensuite, vous savez que on était toujours, on a connu une situation de suractivité, de perturbation dans les fixations vissées. Alors de ce côté-là, on revient dans la norme et on est aidé par l'effet volume. Mais sur les fixations vissées, on n'est pas tellement touché par la baisse du marché chinois, hein, surtout exposé au marché européen. Donc légère baisse de volume dans la partie fixation vissée, qui se maintient à un niveau élevé. Nous, on a parfaitement bien géré la période en termes logistiques. Donc on est revenu maintenant sur des niveaux de taux de service qui sont, on va dire, satisfaisants, qui ne sont pas encore nominales, mais on y revient progressivement. On a résolu une partie de nos activités. Néanmoins, dans la période, on peut dire que l'organisation a connu des perturbations dans cette activité. Dans le panorama des activités, il faut finir avec le médical, où là, par contre, vous voyez que le niveau d'activité est bon. On a 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est en progression de 11,6 par rapport à l'an dernier, on a un bon niveau d'activité sur le T3 et ce sur l'ensemble des sites, principalement sur les deux petits sites de Lyon et le petit site californien, qui retrouve un niveau d'activité aujourd'hui qui est encourageant. Et ce bon niveau d'activité est accompagné d'une amélioration tangible des indicateurs opérationnels. Ça veut dire qu'en termes de taux de service, ça veut dire qu'en termes de niveau qualité et de niveau de productivité, nous sommes conformes et donc on a plutôt des bonnes nouvelles du côté de cette activité-là. Alors en final, ce qui vous intéresse, ce sont les perspectives. Donc le message général est le maintien de nos objectifs, ne vous trompez pas sur le discours. Donc on maintient nos objectifs, hein, globaux. Dans la partie aéronautique, je vous ai parlé de la montée en puissance du nouveau contrat Airbus, l'acquisition de l'IC Aerospace en tant que premier fournisseur de fixation chez Airbus, et qui nous conforte jusqu'à l'horizon 2020 avec des bonnes opportunités de croissance. L'activité de croissance, elle est également perceptible. Alors légèrement sur la période, il y en a plutôt des bons indicateurs qui arrivent en termes de zone géographique sur les US. Et on voit que du côté de Boeing, on a un bon niveau d'activité. On a également un bon niveau d'activité avec vocabulaire. On a un certain nombre d'opportunités qui se dégagent auprès des distributeurs. Donc ça, c'est un sujet qui revient régulièrement depuis déjà quelques publications. Cette fois-ci, on a quelques indicateurs qui sont positifs auprès des distributeurs aux États-Unis. Ensuite, du côté de Marmande, nous avons également des sujets d'industrialisation que vous connaissez bien, qui sont en voie d'amélioration. Je n'ai pas parlé à ce stade encore en voie de solution définitive, mais nous avons des indicateurs qui sont positifs de ce côté-là. Par contre, du côté de Bar-sur-Aube, donc qui est une des grosses forges du groupe Manoir Aerospace, là on a un trou d'air d'activité qui est lié au ralentissement des cadences de la 330, qu'il ne faut pas oublier, on est passé de 9 à 5 et on est exposé sur ce secteur-là, ainsi que sur le secteur des hélicoptères dont je vous avais déjà parlé. Donc on a un niveau d'activité à Bar-sur-Aube aujourd'hui qui a significativement baissé. Donc c'est un sujet à surveiller, et ce également en termes de commentaires. On a quelques annonces de programmes, certes mineurs ou annexes, qui ont été mis un peu de côté, ou en tout cas qui sont en retard sur des nouveaux produits. Et de ce côté-là, également, ça affecte l'activité, principalement forging. Du côté de l'ISI Auto, on a toujours des bonnes nouvelles un bon fonctionnement du business group composant mécanique de sécurité. Même si on baisse d'activité, on arrive à s'ajuster. On a des perspectives également de développement, de nouveaux produits. On prend un niveau de nouveaux produits dans ce segment-là qui est toujours tout à fait positif et qui nous offre des perspectives pour le futur, une fois que le marché chinois se sera ajusté. Dans la partie des solutions clippées, Là également, on a un redressement de certains sites, notamment du site de Puiseux, qui a fait l'objet d'une visite du ministre de l'économie récemment, qui est aujourd'hui en ordre de marche et qui, de mois après mois, confirme son redressement. Certes, il y a un ajustement conjoncturel à faire, mais c'est pas le site de Puiseux qui est principalement affecté. Donc, du côté des solutions clipées, on a plutôt des bonnes nouvelles. Je vous ai parlé d'amélioration des indicateurs logistiques dans la partie fixation vissée, hein, mais dans un contexte de ralentissement. Maintenant, il faut qu'on ajuste nos cours. Il faut que l'on sorte un certain nombre d'intérimaires. Maintenant qu'on a redressé la situation également, il faut qu'on travaille sur certains coûts. Alors, les typologies de coûts sont les outillages, ce sont les coûts de sous-traitance, ce sont également des coûts fixes qu'il faut qu'on arrive à ajuster afin d'améliorer la rentabilité de ce business group. Ça, c'est toujours à faire et c'est devant nous. Dans la partie médicale, donc je vous ai dit un contexte ici qui est, on va dire, qui nous conforte dans notre plan hein, de redressement et de développement. Les deux sites de Néron et d'Europa affichent des indicateurs qui sont en redressement. Le développement du segment du rachis, qui est également à noter, où on a pris quelques belles commandes et on a des bons contacts. Donc tout à fait encourageant pour la suite. Le développement des nouveaux produits, là c'est principalement sur le site de LMO, donc de Caen, et c'est en cours. On a une accélération. Le projet des génériques, on doit résoudre des sujets de qualification, notamment de stérilisation. Et là aussi, on a des indicateurs encourageants pour la suite. Ce sera principalement pour l'exercice à venir en 2016. Et puis, des fondamentaux qui sont consolidés, donc plutôt des bonnes nouvelles de ce côté-là. Alors, en synthèse, je répète mon discours qui est le maintien des objectifs, qui consiste à dire que nous allons améliorer les résultats en valeur absolue. Néanmoins, les sujets de dysfonctionnement dans la partie fixation vissée, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis la partie trou d'air dans la partie composant de structure, pénalise l'amélioration apportée par nos plans d'amélioration, nos plans de productivité, et qui doivent limiter l'amplitude de cette amélioration des résultats. Voilà pour les commentaires que je souhaitais faire, et maintenant je vais laisser la place à vos questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez taper 0 et 1 sur votre clavier téléphonique. Alors, nous avons une première question. Oui, nous avons une première question de Christophe Ménard. Monsieur, vous avez la parole.
Oui, bonjour Emmanuel. J'avais deux questions. La première, c'était, vous avez expliqué donc le contrat Airbus, et merci pour ces détails. Après, j'avais cette question sur Alcoa qui a annoncé un contrat a priori similaire. Je voulais juste savoir si c'était la même chose que ce que vous avez annoncé et si ça avait un quelconque impact sur votre activité Airbus. J'avais trois questions. La deuxième question, c'est vous avez commenté sur la reprise des distributeurs aux US, si j'ai bien compris, si vous pouviez nous donner un peu plus d'éléments sur le phasage, c'est-à-dire est-ce que dès le Q4, on va avoir ce genre d'éléments. Et la troisième question, c'est sur l'automobile, à savoir, vous avez parlé de l'impact chinois, est-ce qu'il y a un quelconque impact Volkswagen sur... sur vos volumes, du moins c'est peut-être une question qui est superflue, hein, mais c'était juste pour vérifier.
Alors, sur le contrat Airbus, oui, je confirme, hein, la communication assez extensive qu'a pu faire Alcoa sur le sujet concerne le même appel d'offres. Et effectivement, on peut dire que Lizzie et Alcoa ont des niveaux de prise de contrat. Alors je ne sais pas comment ils font pour communiquer. Eux ont communiqué sur une valeur du contrat d'un milliard de dollars. Nous on est beaucoup plus prudents, on n'a pas mis de valeur associée. Je ne peux pas vous dire également les parts de marché exactes de chacun des acteurs. C'est plutôt Airbus de communiquer sur le sujet, ce n'est pas à moi. Moi ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un contrat qui nous confirme comme fournisseur numéro 1 d'Airbus dans un volume d'activité qui n'est pas très éloigné de celui d'Alcoa. Après, j'ai pas très bien compris leur communiqué dans lequel ils expliquent qu'ils ont des produits très spécifiques, mais c'est des gammes de produits qui sont très proches des nôtres. Donc j'aurais pu reprendre les mêmes termes qu'Alcoa sur les multi-alloys, multi, etc., etc. Oui, c'est le même typologie de contrat qu'on a pu négocier. C'est à peu près 2 ans de travail. C'est des contrats qui sont extrêmement compliqués avec beaucoup de lignes. Nous ressortons, on va dire, avec un sentiment de satisfaction. On a eu clairement un travail conjoint avec les équipes d'Airbus. On a pu émerger comme étant un partenaire solide de notre premier client. Deuxième chose concernant la distribution aux États-Unis, aujourd'hui je vous ai parlé d'indicateurs avancés, je vous ai parlé de prise de commande, je vous ai parlé également de demande de cotation. Nous on se met en position pour pouvoir servir dans de bien meilleures conditions la distribution. On a également eu des contacts avancés avec KNX Wesco, qui sont les deux grands distributeurs, avec un certain nombre de projets qui sont en cours de discussion. Donc pour l'instant, il est difficile de quantifier, mais sachez que on a aujourd'hui des indicateurs avancés qui sont plutôt positifs de ce côté-là. Enfin, notre exposition à Volkswagen. Non, aujourd'hui, on ne constate pas de ralentissement très marqué chez Volkswagen, sauf auprès des usines d'assemblage aux États-Unis de Volkswagen. Et bien entendu, mais là, un ajustement conjoncturel qui affecte tous les constructeurs, qui est lié au marché chinois. Mais sur le marché européen, Volkswagen n'a pas ralenti ses cadences de production. Donc il n'y a pas d'effet Volkswagen à ce stade. L'exposition directe à Volkswagen, c'est à peu près une trentaine de millions d'euros en direct. Après, il y a l'exposition indirecte qui est vis-à-vis des équipementiers qui fournissent Volkswagen et qui peut se mesurer avec une amplitude assez proche de l'activité directe. Donc oui, il y a une exposition éventuelle à Volkswagen, mais qui est quand même diluée dans l'ensemble et qui pour l'instant ne laisse pas penser d'ajustement brutal, une catastrophe auprès de ses constructeurs à ce stade. Voilà, j'espère avoir répondu à ces 3 questions.
Merci beaucoup.
Merci. La prochaine intervention est de Chloé Lemarie. Madame, c'est à vous.
Oui, bonsoir à tous. J'aurais en fait une petite précision à avoir sur l'auto, juste pour être sûr que j'ai bien saisi le message. Au niveau des surcoûts sur les fixations vissées, ils auraient continué à impacter le Q3, mais devraient être limités maintenant, ou est-ce qu'ils continueraient encore sur le Q4, malgré la baisse des volumes? Et d'ailleurs, sur les volumes, est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait une reprise au Q4, ou est-ce que le message implicite c'est que vous ajustez vos coûts à la baisse parce que les volumes ne reprendraient pas? La deuxième question, ce serait sur l'industrialisation du LEAP. Vous mentionnez dans le communiqué une amélioration pour l'usine Marmande et des retards à Argenton. Est-ce que vous pouvez vous rappeler quels produits sortent de l'usine d'Argenton et quelques détails sur les difficultés rencontrées?
Alors, on va commencer cette fois-ci par l'auto. Effectivement, on s'inscrit dans une baisse des volumes qui affecte également l'activité des fixations vissées. Et là, effectivement, on a un ajustement sur le T3 des volumes, mais pas tant que ça. Donc l'impact volume sur le T3 dans la partie fixation vissée n'est pas énorme. Aujourd'hui, comme on est revenu sur des niveaux de taux de service, de retard qui sont beaucoup plus gérables qu'auparavant, on va limiter le coût des transports exceptionnels. Maintenant, on voit qu'on a eu du mal sur le T3 à ajuster d'autres coûts. Et ça, c'est, on a toujours des surconsommations d'outillage, d'autres surconsommations. On a également des surréactivités. Donc, on a bien entendu un plan d'action et on a un espoir d'ajuster progressivement les coûts. Alors, on a quand même une inertie. Donc, mon message plutôt prudent dans ce secteur-là, c'est de te dire, attendez-vous, on a été impacté sur le Q3 en termes de coûts, et on devrait continuer à être impacté sur le Q4 également en termes de coûts dans cette activité des fixations vissées, bon, qui est la principale activité automobile. Hein. On n'arrive pas à ajuster des usines en claquant des doigts. On a des contrats d'intérim qui durent, on a des fonctions qu'il faut réorganiser, répartir, on a des organisations par équipe, donc on ne veut pas perturber et recréer une bulle de retard, alors même qu'on vient déjà de mettre des efforts significatifs. Et vous savez très bien que nous gérons également notre activité avec une perspective dans la durée. Donc on n'est pas les adeptes de coups de frein extrêmement brutaux, et on va prendre des décisions responsables qui s'imposent pour les ajuster progressivement. Bon, à titre de prudence, le message que je vous fais passer, c'est n'attendez pas un redressement significatif sur le Q4. Bien entendu, on va essayer de gérer au mieux les choses. Alors, vos deux questions concernant l'activité aéronautique, hein, cette fois-ci, on change. On repasse dans le segment des structural components, et plus précisément sur le périmètre creuset et Indraéro. Alors, sur le périmètre creuset, l'industrialisation du LIP nous laisse entrevoir des espoirs qu'il faut confirmer dans la durée. C'est pour ça que le langage employé est mesuré. Pour l'instant, on a plutôt des indicateurs positifs. On a eu enfin la définition définitive des specs sur les bords d'attaque. On a résolu une grosse partie de nos sujets sur les lèvres d'entrée d'air. On a encore des sujets d'industrialisation sur les pièces à 350, les grosses pièces titane à 350, et progressivement, on y apporte des solutions. Donc, de ce côté-là, notamment ce qui concerne le LIP et l'objet de votre question, en particulier l'industrialisation du LIP, oui, il y a un certain nombre d'indicateurs positifs qu'il faut confirmer. Et j'espère qu'on vous les confirmera sur le Q4. On a mené un audit industriel de notre processus d'industrialisation, la solidité de notre industrialisation, à la fois au niveau des méthodes et des solutions techno, qui aboutissent à des conclusions, là aussi, encourageantes. Du côté d'Argenton, la situation est différente. On a des indus de la 320 Néo, donc qui ne génèrent pas de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a des retards sur le programme CFM56, hein, c'est l'IFS, donc c'est l'inverseur de poussée, c'est quasiment un quart de la nacelle qu'on livre ensuite à Hercel. Là, on a une situation qui est tendue et on a des surcoûts qui sont liés à, justement, on met des moyens supplémentaires pour tenir les hausses de cadence. Alors, pour ce programme-là, on est à 35% de hausse sur 18 mois. Donc, vous voyez, c'est très important. Et on sait que ce programme va baisser à l'horizon 2017-2018. Donc, c'est toujours assez compliqué de... Justement, on ne veut pas mettre en œuvre des solutions qui soient trop coûteuses, alors qu'on sait très bien qu'on n'aura aucun retour sur les investissements qu'on pourrait décider pour suivre ces cadences-là. Néanmoins, on sait qu'on doit le faire parce que le client nous met une certaine pression, et aujourd'hui, on arrive à tenir la situation à marche forcée, mais aussi à coût supérieur, et donc on a là des sureffectifs pour pouvoir tenir. Alors, on parle de retard, mais on ne parle pas ni de rupture ni de shortage. Donc il n'y a pas d'arrêt de chaîne et le client n'est pas à risque à ce stade. Hein. Il ne faut pas confondre avec d'autres situations dans d'autres sociétés. Donc là aussi, il faut relativiser. Simplement, le message qu'on vous fait passer, c'est que du côté d'Argenton, on a des surcoûts à noter. Voilà. As-tu répondu à votre question, Chloé ?
Si, si, très bien. Donc, j'aurais juste, si je peux, une toute petite dernière précision. Donc, en prenant toutes ces différents points en considération, est-ce qu'on s'oriente vers des coûts d'industrialisation pour le groupe qui seraient à peu près en ligne avec ce qu'on a vu sur le H2 ou un peu en dessous ou un peu au-dessus? Quelle est votre vision là-dessus?
Alors, en termes de coûts d'indus sur le périmètre Creuset, on s'améliore. Si on veut considérer que le coût de montée en puissance d'Argenton soit considéré comme des coûts d'industrialisation, on peut dire qu'il y a un plus et un moins. Après, si on y met l'effet du trou d'air sur Barre, qui Barre a toujours été une usine qui était contributive sur l'ensemble de Manoir, globalement, on a eu un été un petit peu difficile de ce point de vue-là en termes de surcoût. Alors, le trou d'activité sur Barre, il va se prolonger, parce que le 330, il va pas démarrer tout de suite, il faut attendre la version 330 Néo, donc ça va se prolonger un certain temps. Le marché hélicoptère, il va pas se redresser non plus vu le cours du pétrole, donc on peut considérer que Barre va rester un certain temps avec une situation d'activité un petit peu déprimée. Voilà.
D'accord, merci.
Merci. La prochaine intervention est d'Antoine Boivin-Champeau. Monsieur, vous avez la parole.
Oui, bonsoir Emmanuel. J'ai trois questions. La première concernant un des fournisseurs de la supply chain, pour ne pas le nommer Zodiac, que vous n'avez pas nommé non plus. Est-ce qu'il y a un impact direct ou indirect des difficultés de Zodiac pour vous aujourd'hui? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est l'industrialisation du LIP. Vous faisiez référence au LIP 1A ou aux deux, voire trois versions du LIP quand vous évoquiez l'amélioration, ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour savoir que ça se passe mieux pour le LIP 1B, par exemple? Ça, c'était ma deuxième question. Et ma troisième question, c'était sur la gouvernance, dont on a vu les principaux éléments, l'évolution de cette gouvernance. Pourquoi est-ce que cette décision est prise maintenant? Pourquoi elle ne pouvait pas être prise avant ou plus tard? Est-ce qu'il y a une raison particulière, un déclencheur à cette évolution? Merci.
Alors, entre nous, je m'attendais à une question sur la gouvernance, mais pas orientée de cette façon-là. Bon, en tous les cas, je vais essayer d'y répondre. Tout d'abord, Zodiac n'a strictement aucun impact sur nous. Zodiac n'est pas un client direct significatif, donc il n'y a pas d'impact pour nous. Indirectement, le fait que les avions soient immobilisés en finition n'a pas d'impact non plus. Donc ça, c'est pas un sujet. Donc on souhaite tous, bien entendu, que Zodiac revienne le plus rapidement possible à l'heure, et je suis sûr, compte tenu de la qualité de la société, de la qualité de ses dirigeants, on va y revenir très très rapidement. Et ce sera plus qu'un mauvais souvenir dans très peu de temps. Sur l'industrialisation du LIP, effectivement, vous avez raison, c'est surtout le 1A qui était dans une définition fluctuante, sur lequel il y a beaucoup de travail. Alors, ce que j'ai compris également, c'est que le 1B était peut-être un peu plus stabilisé, et par contre, le 1C, pour l'instant, il est... Pour nous, en ce qui nous concerne, mais là je emploie également beaucoup de prudence dans mon langage, et ça m'embêterait beaucoup de me prononcer à la place de Safran, et c'est à Safran qu'il faut poser la question. Et en tout cas sur le 1C, donc ce qui est type la Comac, il y a moins de degrés d'urgence, si j'ai bien compris le sujet.
Et si je peux me permettre, juste sur le 1B, il est plus stabilisé alors même qu'il arrive plus tard dans le cadencement des sorties des moteurs, puisqu'il est en entrée en service en 2017 contre 2016 pour le 1A. Malgré
oui,
tout,
vous avez raison, c'est le 1A qui fait l'objet aujourd'hui de toute l'attention. Et le 1B, nous, on n'a pas eu trop de modifications de paramètres sur ce moteur-là.
D'accord.
Voilà. Donc, après, je ne sais pas, ça préjuge peut-être pas du futur. Enfin, votre question votre question qui m'a un peu surpris. Non, il n'y a pas de raison particulière. Pourquoi est-ce qu'on annonce aujourd'hui? C'est pour pouvoir préparer à l'avance, vous savez, les questions de pérennité, de succession, de gouvernance dans les sociétés comme les nôtres. C'est toujours important que ce soit géré bien à l'avance. Que le message général que je voulais vous faire passer, c'est la continuité. Vous me connaissez depuis longtemps. Vous connaissez Gilles Colère depuis longtemps. Et il y a une parfaite continuité dans le management. Là, il y a une réorganisation de la gouvernance. Donc, avec Gilles Colère qui va passer comme président du conseil d'administration, qui se dégager progressivement de ses fonctions exécutives. Mais il y a une continuité complète et totale, puisque je continuerai de travailler en très très forte proximité de Gilles Colère. Que Gilles Colère continuera à être présent dans le groupe et que vous continuerez à le voir au moins à l'Assemblée Générale et que il continuera à être au courant des principales décisions au fur et à mesure et il continuera à être également très très présent sur la partie stratégique. Donc il y a une parfaite continuité et je pense que, en tout cas j'espère que vous continuerez à avoir les mêmes relations avec l'ensemble du groupe et avec moi en particulier. Donc il ne devrait pas y avoir des bouleversements liés à cette annonce.
Est-ce que ça signifierait éventuellement une charge opérationnelle plus soutenue ou plus lourde pour vous-même avec cette organisation-là? Ou est-ce que le fait que Gilles Colère ait peut-être moins d'activité au jour le jour, est-ce que ça signifie des renforcements de structure à vos côtés?
Alors, écoutez, on a préparé cette passation depuis quelque temps, donc on n'a pas fait pas réveiller le jour au lendemain en disant tiens, on va changer ça. Donc on a pris des renforts, on s'est entouré en termes de suivi de gestion, contrôle financier, etc. On a fait venir et rapatrier le directeur financier aux US qui est passé par l'auto et qui vient renforcer les équipes. On a recruté un directeur technique opérationnel qui s'occupe également des achats et de la coordination des investissements et également l'animation du LIP. Donc on a pris les devants et on a pris bien entendu des questions du conseil. On a anticipé le renfort des structures au niveau de l'ISI pour être à la fois toujours lean, efficace. Ensuite, si vous sous-entendez que je n'avais pas grand-chose à faire jusqu'à présent et que je vais être écrasé par le travail demain, je pense que je vais être toujours occupé comme j'ai été par le passé. Et il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là.
Bon, merci.
Merci. La prochaine intervention est de Laurent Gélébard. Monsieur, vous avez la parole.
Oui, bonsoir. J'avais deux questions rapides. La première, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre exposition directe et indirecte à la Chine sur la partie auto? Et la deuxième question, sur la croissance organique au T3 sur la partie aéro, est-ce que vous pouvez nous donner le détail par fixation Europe, fixation États-Unis et composants de structure, s'il vous plaît?
Alors, l'exposition directe et indirecte à la Chine, bon, vous savez, on fait à peu près 30 à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires à destination de cette zone géographique en direct. Après, on a une exposition vis-à-vis des clients équipementiers, ça concerne à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les équipementiers que l'on sert avaient un plan de croissance très très ambitieux vers la Chine. Ce plan de croissance, il n'est pas remis en cause. Simplement là, je vous parlais d'un ajustement conjoncturel. Donc tout le monde ajuste ses stocks, que ce soit les constructeurs, mais également les équipementiers. Donc on a un coup de frein. Aujourd'hui, on estime, en moyenne, d'après ce qu'on peut voir, que ce coup de frein sur les mois de juillet, août et septembre, c'est d'une amplitude de moins 25 à moins 35 sur le chiffre d'affaires direct et indirect pour la Chine. Et une fois que cette phase d'ajustement sera passée, on va revenir dans un niveau nominal assez proche de ce qu'on avait par le passé. Hein, donc, une fois que les stocks ont été ajustés, alors aujourd'hui, ne me demandez pas quelle longueur du cycle d'ajustement on peut anticiper, parce que je serais bien en peine de le faire, mais on peut imaginer que sur 4-5 mois, on arrive à s'ajuster. Hein, donc pour nous, là, on est dans le conjoncturel et dans le court terme. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on réagit, qu'on prend le phénomène chinois à ce stade. Le détail du chiffre d'affaires des composants, vous les avez dans le tableau annexe. Hein.
Oui, on l'a sur 9 mois, mais je le voudrais sur le T3 en fait.
Ah bah, comme vous avez le tableau du T1 et T2, par différence, vous le faites. Mais malheureusement, je ne l'ai pas sous les yeux, je vous l'enverrai si vous voulez. Non.
Je veux bien.
Après, puisque si je n'ai pas fait les calculs, je peux les faire à votre place. Mais je pense que si vous avez suivi votre tableau, vous reprenez le T2 et par différence, vous avez le chiffre d'affaires du T3.
Ok.
Merci, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment.
On va laisser peut-être quelques secondes pour ceux qui veulent se décider à poser des questions.
Je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, tapez 0 et 1 sur votre clavier téléphonique. La prochaine intervention est de Christophe Ménard. Monsieur, vous avez la parole.
Oui, j'avais juste une question supplémentaire sur... vous avez mentionné tout à l'heure que votre contrat Airbus était en dollars. Est-ce que ça veut dire que sur le groupe, vous avez augmenté votre exposition dollars? Est-ce que vous pouvez nous faire un récap ou est-ce que ça ne change rien? Et si vous avez aussi quelques éléments sur votre hedging dollar sur les prochaines années.
Oui, donc vous savez, on vous fait des points sur les positions de couverture lors des publications semestrielles. Mmh. Donc je vous donnerai bien entendu ça au mois de février. Alors, pour répondre très directement à votre question, oui, notre exposition dollar à partir d'une zone de coût Europe augmente. On avait une exposition nette par le passé traditionnelle qui était d'ordre de 40 millions de dollars. Sur l'exercice en cours, on va passer à une exposition nette peut-être environ du double, donc de l'ordre 70 à 80, pour ensuite, dans les années suivantes, être encore en augmentation, 120 à 150 millions à peu près. Donc on va augmenter notre niveau de couverture. On a déjà commencé à se renforcer. Aujourd'hui, on est couvert dans des positions moyennes aux alentours de 1,13, 1,14 à peu près. On attend impatiemment la hausse attendue du dollar. Et si elle n'arrive pas, on continuera à garnir le carnet de couverture dans ces niveaux-là. Donc pour l'instant, je pense qu'il ne faut surtout pas trop se presser pour ne pas rater des opportunités de couverture. Et on regarde plusieurs outils de couverture également. Et on est en train de travailler avec les équipes trésorerie et nos banquiers. Pour augmenter notre couverture pour les 5 années qui viennent.
D'accord. Et merci. Et sur un autre point, sur le cash, vous avez mentionné que vous gardiez les objectifs, mais que l'amplitude serait moindre que celle espérée. Est-ce que c'est pareil sur le cash? Est-ce que je fais une règle de proportionnalité et que l'amplitude sera moindre que celle initialement espérée?
Écoutez, sur le cash, on a dit qu'on souhaitait rester, malgré des programmes d'investissement extrêmement ambitieux, positifs. On restera positif sur la fin de l'année, ça c'est clair. Après, tout dépend de l'amplitude dont vous parlez. Il faudrait que on soit un tout petit peu plus précis, que l'on se situe dans une fourchette 15-25, c'est possible.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci. La prochaine intervention est d'Agnès Blasi. Madame, c'est à vous.
Bonjour Emmanuel. C'est Agnès Blasi. Alors, j'ai plusieurs questions. Effectivement, j'ai du mal à raccorder les deux messages en début de communiqué sur la progression attendue des résultats en valeur absolue pour 2015 et ce qui est inscrit dans la slide où vous compter sur une amélioration limitée des résultats. Donc j'aurais voulu savoir si ça c'est valable en termes d'exploitation ou en termes de résultats nets, à savoir qu'aujourd'hui il faut compter qu'on aura visiblement une amélioration des résultats qui sera inférieure à 5%. Est-ce que vous pouvez me dire sur ce sujet? Deuxièmement, sur l'IV automotive, est-ce que vous pouvez nous dire qui va diriger l'IBSI Automotive si c'est déjà en phase de restructuration, enfin de restructuration, excusez-moi, de recrutement. Et troisièmement, ça concerne les investissements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous repréciser le budget d'investissement qui avait été initialement prévu pour Manoir et comment ça se resitue dans la perspective globale qu'on fout?
Oui, alors, le message général hein, que l'on fait passer en termes d'indicateurs, ça concerne l'exploitation. Hein, sur le résultat net, celui-là, il y a d'autres critères comme, notamment, ça dépend de la fair value, des instruments financiers qui vient impacter le résultat net ou pas, et du calcul un peu plus fin des niveaux d'imposition différés ou pas. Donc, sur le résultat net, j'ai un peu moins de visibilité. Mon message concerne le résultat d'exploitation. Si vous pensez des juges, si vous regardez la dernière page de notre communiqué étendu, ça reprend exactement la même phrase que la présentation PowerPoint que je viens de vous passer. Hein. Donc la hausse en valeur des résultats par rapport à 2014 devrait être d'une amplitude moindre que celle espérée lors des publications précédentes. Hein, voilà, donc il y a bien une cohérence dans le message que je vais vous faire passer. Ensuite, vous avez une question qui concerne, vous pouvez me la rappeler parce que j'ai pas pris le temps de la noter.
Oui, ça concerne simplement la direction exécutive de l'IBSI Automotive.
Excusez-moi. Non, la direction exécutive de l'IBSI Automotive est réalisée par M. François Lyotard, qui est en place depuis 3 ans. Et qui reste bien entendu le directeur général de l'ICI Automotive, au même titre que Jean-Louis Colder, c'est le directeur général de l'ICI Aerospace. Donc la direction exécutive est assurée par une équipe exécutive totalement dédiée à l'ICI Automotive. Et Gilles Colder était président de l'ICI Auto, c'était sa position précédente. Voilà.
D'accord. Et le budget d'investissement, donc compte tenu notamment sur Manoir avec les difficultés dans les forges et composantes de structure, est-ce que le cadencement des investissements ou leur ampleur va faire l'objet d'une communication nouvelle? Est-ce que vous en êtes toujours sur plus de 100 millions d'euros d'investissement par an pour les 3 ans qui viennent?
On reste là-dessus, il n'y a pas de changement. Écoutez, on a des premiers éclairages sur les projets Manoir. On est en train de travailler avec les autorités locales. Il y a un certain nombre de réunions qui sont en cours. Donc on est en train de caler ça. Et aujourd'hui, il n'est pas prévu dans notre plan de prendre en compte les investissements immobiliers sur Manoir. Et donc, il n'y a pas de modification majeure sur l'ampleur des investissements réalisés pour les exercices à venir.
Ok.
Merci. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment.
Bien. Peut-être... écoutez, si vous n'avez plus de questions... Non ? Écoutez, je vous remercie beaucoup à la fois de la pertinence de vos questions, de nous suivre toujours avec fidélité, et en tout cas, je suis à votre disposition pour les questions complémentaires que vous pourriez avoir, et je vous souhaite donc de bien digérer toutes ces informations, et je vous donne rendez-vous maintenant pour le mois de février pour les résultats annuels du groupe. Donc, encore une fois, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.